Merci d'écouter RFI, 13h en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
Anne Contenaire.
RFI Midi, dernière partie sur le continent américain avec Haïti à la une et la police en grande difficulté face aux gangs. On appellera dans quelques minutes notre confrère directeur de l'agence Alter Press, Godson Pierre. Le prix Sakharov de l'Union européenne remis aux opposants vénézuéliens Edmundo González Urrutia, candidat déçu à la présidentielle du mois de juillet et qui clame toujours sa victoire. Et puis la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado. On y revient tout à l'heure. On parlera aussi de ce mandat d'arrêt contre l'ancien président bolivien Evo Morales. Et puis nous rejoindrons nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, la communauté mahoraise des Antilles vit, comme partout ailleurs en France, depuis 4 jours dans l'angoisse.
Nous entendrons tout à l'heure le témoignage de Mouanécha. Elle vit en Guadeloupe depuis 6 mois. Elle sait que sa famille la plus proche est vivante, mais elle n'a plus de nouvelles maintenant depuis dimanche matin.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est l'heure du journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence par Mayotte, donc, où un couvre-feu sera imposé la nuit à partir de ce soir pour des raisons de sécurité.
Et dans l'île française de l'océan Indien, il est toujours aussi difficile de prendre la mesure de la catastrophe. Après le passage du cyclone samedi soir, les autorités refusent d'établir le moindre bilan humain, tant il est impossible pour le moment d'évaluer le nombre de morts, probablement des centaines, voire plus. À Mayotte, la situation sanitaire est très précaire. L'unique hôpital est très endommagé, le risque d'épidémie augmente et les Mahorais manquent de tout, eau, nourriture, électricité. Écoutez le témoignage de Marietta Racione. Elle est enseignante à la campagne, elle a rejoint Mamoudzou pour chercher du ravitaillement.
On a besoin d'alimentation parce qu'il n'y a pas à manger, tout a été détruit. La faune et la flore à Mayotte n'existent plus à ce jour. Donc du coup, les gens ont besoin d'eau. Il faut absolument qu'on ait d'eau parce que le réseau d'eau, il est fermé. Et puis aussi avoir de l'alimentation, surtout pour les petits. On n'a rien reçu. Là, à ce jour, on essaie de s'entraider entre nous, mais même les congélateurs, tout est décongelé. Il n'y a plus de viande. Il y a la pluie qui est tombée, donc du coup, on ne peut même pas allumer le bois pour faire du feu. La situation est catastrophique à Mayotte à ce jour.
Marietta Racione était jointe par téléphone par Carlos Pizarro. Le président Macron a lui annoncé qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours. Un deuil national doit être décrété. François Bayrou, lui, continue ses consultations avant de former son gouvernement. Il reçoit notamment les écologistes et les communistes aujourd'hui. Cet après-midi, c'est seul qu'il répondra aux questions des députés dans l'hémicycle, faute d'avoir de nouveaux ministres nommés autour de lui. À Damas, les nouvelles autorités tentent d'organiser la transition et le défi est colossal, d'autant plus que l'ONU estime à 1 million le nombre de Syriens installés à l'étranger qui pourraient rentrer au pays dans les 6 mois. Des gages du nouveau pouvoir sont donnés à l'international pour s'assurer des soutiens. Paul Ralifet, bonjour, vous êtes notre correspondant dans la région à Beyrouth.
Bonjour Karine, bonjour tout le monde.
Paul, le drapeau tricolore a été hissé à l'ambassade de France à Damas à l'occasion de l'arrivée de l'envoyé spécial français pour la Syrie. De nombreux émissaires se pressent à Damas pour entamer le dialogue avec le nouveau pouvoir emmené par les islamistes radicaux du HTS.
Oui Karine, l'envoyé spécial Jean-François Guillaume a déclaré à son arrivée dans la capitale syrienne que la France se prépare à être aux côtés des Syriens. Il faut dire que le nouvel homme fort de Damas, Ahmad Sharah, de son nom de guerre, Abu Mohammed al-Julani, a bien préparé le terrain à un début de normalisation avec les Occidentaux qu'il courtise en multipliant les propos rassurants à l'adresse des minorités religieuses et politiques. Ses troupes ont aussi fait preuve d'un minimum de retenue, de discipline, en s'abstenant de commettre de vastes exactions. Ces gestes étaient suffisants pour paver la route de Damas aux Occidentaux. Washington a ouvert le bal en annonçant des contacts directs avec Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui figure pourtant toujours sur la liste américaine des organisations terroristes. C'est ensuite Geir Pedersen, l'émissaire de l'ONU en Syrie, qui a débarqué à Damas. Pendant ce temps, les déclarations de bonnes intentions continuent de pleuvoir. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a annoncé ce mardi que l'Union est prête à rouvrir son ambassade à Damas. même ton du côté de la première ministre italienne. Giorgia Meloni s'est dit disposée à dialoguer avec le nouveau pouvoir en Syrie. Elle a toutefois appelé à la prudence maximale vis-à-vis de HTS. L'impatience des Occidentaux s'explique par le souci de ne pas laisser le terrain entièrement libre à la Turquie, principal sponsor des nouveaux maîtres de la Syrie. Mais les Turcs ont plusieurs longueurs d'avance. Ils ont déjà rouvert avec leur allié qatari leur ambassade à Damas et entretiennent d'étroites relations politiques, militaires et sécuritaires avec HTS.
Paul Ralifé, en direct de Beyrouth. Les services secrets ukrainiens revendiquent l'assassinat d'un haut gradé de l'armée russe. Ce n'est pas officiel, mais une source au sein du SBU confirme que Kiev a organisé l'attentat à la bombe qui a tué le général Igor Kirillov et son adjoint à Moscou. Selon les enquêteurs, l'engin explosif était déposé sur une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble. Igor Kirillov avait été sanctionné en octobre par Londres pour déploiement d'armes chimiques en Ukraine. Paul Watson a pris la parole après sa remise en liberté. Sa détention, dit-il, a permis d'attirer l'attention sur l'illégalité de la chasse à la baleine. Le Danemark a décidé de ne pas l'extrader vers le Japon. Le militant écologiste de 74 ans avait été arrêté en juillet au Groenland. Les autorités japonaises l'accusent d'être responsable de dommages et blessures à bord d'un baleinier en 2010 dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd. L'un de ses avocats, William Bourdon, rappelle la mobilisation citoyenne autour de Paul Watson, mais aussi la pression politique sur ce dossier.
Évidemment, c'est un immense soulagement pour lui, sa famille, ses enfants, toute l'équipe qui a travaillé avec lui, pour lui, et puis sans doute des dizaines, des centaines de milliers de citoyens à travers le monde qui vivaient cette détention et ce risque d'extradition comme totalement injuste, arbitraire, insupportable. Enfin, comment imaginer qu'un activiste écologique ont des actions tellement dessillées les yeux sur le cynisme de l'industrie baleinière et une forme de cynisme de la communauté internationale aussi, pouvait être en risque de passer des années dans des prisons japonaises et le cas échéant d'y mourir. Il y avait des forces contraires, il y avait un lobby de l'industrie baleinière, relayé sans doute par une partie de l'industrie de la pêche au Danemark. Il y a des forces politiques qui n'étaient pas forcément très favorables à Watson. Le Danemark va rejoindre la présidence de l'Union européenne début janvier. Donc, au moment où les valeurs européennes sont parfois détricotées, attaquées, le Danemark, en refusant l'extradition de Paul Watson, sauve l'honneur de l'Europe.
William Bourdon, interrogé par Jeanne Richard. Aux États-Unis, pour la première fois depuis sa victoire, Donald Trump a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse hier. Le président élu a évoqué les grands sujets internationaux du moment, mais aussi des vols de drones signalés dans le nord-est des États-Unis, à sa façon. À Washington, Guillaume Nodin.
Il n'est pas surprenant que Donald Trump n'ait pas la même interprétation que l'administration finissante sur nombre de dossiers. Les deux camps s'opposent sur à peu près tout depuis des années. Alors que des vols de drones sont signalés depuis plusieurs jours au-dessus du New Jersey, le président élu reprend volontiers les éléments d'un discours complotiste.
Notre armée sait et notre président le sait également. Et pour une raison ou pour une autre, ils veulent laisser les gens dans l'ignorance. Il se passe quelque chose de bizarre et ils ne veulent pas le dire aux gens alors qu'ils le devraient.
L'administration Biden s'efforce de assuré depuis plusieurs jours, ce lundi encore, en réponse à Donald Trump, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale expliquait que plus d'un million de drones sont autorisés aux États-Unis, que plusieurs milliers volent chaque jour. Pour John Kirby, ce qui est observé comme des drones à usage commercial pour les forces de l'ordre ou de loisirs est absolument normal.
Nous n'avons rien constaté d'anormal ni constaté de risque pour la sécurité nationale ou la sécurité des personnes dans l'espace aérien du New Jersey et celui des autres États du Nord-Est.
Donald Trump dit avoir annulé un séjour dans sa résidence du New Jersey. La Maison-Blanche rétorque que l'espace aérien y est réglementé et sous contrôle. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Elle était l'une des égéries de Pedro Almodovar. L'actrice espagnole Marisa Paredes est décédée à l'âge de 70 ans. Elle avait tourné 6 films avec le réalisateur emblématique de la Movida, dont Talon aiguille et Tout sur ma mère. Voilà, c'est avec cette information que se referme ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha. Tout de suite, l'actualité du continent américain. Dernière partie d'RFI Midi. L'Union européenne vient de remettre officiellement son prix Sakharov, prix pour les droits humains, qui récompense cette année les opposants du Venezuela, Edmundo González Urrutia, candidat déçu à la présidentielle de juillet dernier, remporté officiellement par Nicolas Maduro. Élection contestée aujourd'hui. Edmundo González Urrutia est en exil en Espagne et voici sa réaction.
Au Parlement européen, nous avons été...
Ce prix qui nous est remis à Maria Corina et à moi-même, non seulement nous conforte dans notre engagement, mais il symbolise aussi l'unité entre les démocrates dans le monde. Le Venezuela compte sur vous, parce que la lutte pour la liberté et la démocratie chez nous est aussi la lutte pour ses valeurs sur toute la planète. Vive le Venezuela libre.
Que viva Venezuela libre.
Edmundo González Urrutia, récompensé donc avec Maria Corina Machado, qui l'a cité, vous l'avez entendu, la chef de file de l'opposition vénézuélienne. Elle vit toujours dans son pays, mais dans la clandestinité depuis le mois de juillet dernier. Cette élection, elle n'a pas été reconnue par les États-Unis, ni par l'Europe ou encore de nombreux pays d'Amérique latine. L'élection de Nicolas Maduro contestée. Je vous propose d'écouter maintenant la présidente du Parlement européen au moment de la remise de ce prix, Roberta Metsola.
Au Parlement européen, nous avons été constamment du côté du peuple vénézuélien. Personnellement, je porte ce message aux dirigeants européens. Je le ferai encore après-demain pour le Conseil européen en préparation de la prise de pouvoir de janvier prochain au Venezuela. Pour nous, il faut que les États membres s'alignent sur nos positions et nous y travaillerons.
La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, tout à l'heure, donc au moment de la remise de ce prix. La prestation de serment pour le prochain mandat est prévue le 10 janvier prochain.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On prend tout de suite donc la direction d'Haïti. Nous sommes en ligne, comme chaque mardi, avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour.
Bonjour Anne.
On parlait hier sur cette antenne de la terreur que fait régner la coalition criminelle Vivre Ensemble à Port-au-Prince. Eh bien, vous soulignez en une de votre site les difficultés, les très grandes difficultés de la police à contenir ces gangs.
La police travaille sur plusieurs fronts, confirme Lionel Lazare, porte-parole de la police. Il a fait état hier d'opérations menées à travers plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince dans l'objectif de démanteler les foyers de gangs. Ces derniers jours, plusieurs bandits ont été touchés mortellement à Poste Marchand, au centre de la capitale. Des présumés membres de gangs abattus également en divers endroits à Delma, périphérie nord-est. Eh bien, les affrontements se poursuivent dans d'autres quartiers du centre de la capitale et des communes périphériques, mais les bandits continuent de mettre une pression accrue dans divers quartiers.
Et la police mène aussi des opérations dans le département plus rural de l'Artibonite.
Oui, dans le département de l'Artibonite au nord du pays, les officiers sont à pied d'œuvre pour déloger les gangs. Le porte-parole a évoqué des avancées significatives, annonçant le décès de plusieurs bandits dans la localité de Palmiste, dont Don Cani, membre du gang de Savien. À Liancourt, la circulation a été libérée, le commerce informel a repris, tandis que les forces de l'ordre renforcent leur dispositif de sécurité. C'est ce qu'informe du moins Lionel Lazare. La police accroît dans la foulée sa présence à Carrefour-Paye, Villa de l'Esther, afin de sécuriser les vies et les biens de la population, en plus d'occuper le sous-commissariat de Ponsonté.
Et dans ce contexte sécuritaire dramatique, la transition politique piétine toujours, au point que la CARICOM, l'Organisation des pays de la Caraïbe, hausse le ton. Il y a eu une réunion hier avec les signataires de l'accord du 3 avril qui a mené à cette transition. La CARICOM s'inquiète notamment du comportement des trois membres du Conseil présidentiel de transition qui sont accusés de corruption. Et votre site Alter Press parle d'impasse dans cette affaire Godson.
Impasse, oui, car pour le moment, l'affaire est bloquée. Les conseillers ont refusé de se présenter devant le juge d'instruction désigné pour conduire l'enquête judiciaire sur cette affaire de pot de vin qui les éclabousse. L'ancien ministre de la Justice, maître Camille Leblanc, dénonce une manœuvre dilatoire. La thèse de la Haute Cour de justice soutenue par les conseillers inculpés ne tient pas, dit-il. La Haute Cour n'existe pas aujourd'hui. Maître Leblanc qualifie d'illogique et ridicule la stratégie des les conseillers de ne pas se présenter devant le juge d'instruction alors qu'il est établi qu'ils ont commis une infraction.
Godson Pierre, directeur de l'agence Alterpress, on vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on peut vous lire sur le site alterpress.org. On va rester en Haïti. Haïti à la une de votre revue de presse, Vincent Souriau, et ses sanctions contre trois chefs de gang prises hier par l'Union européenne.
Oui, c'est le Conseil des affaires étrangères de l'Union qui a pris cette décision hier à Bruxelles. La liste noire inclut Jonel Katell, alias Katell Jones, chef du gang de Terre Noire affilié au groupement criminel Vivre Ensemble, et Gabriel Jean-Pierre qui dirige la coalition GPEP. Dans les deux cas, on parle de groupes armés qui opèrent en majorité dans la zone de Cité Soleil. Sanctions aussi contre Ferdinand Stilus, alias Général Meyer, cette fois numéro 1 du gang Cocora de Sanras, actif dans le département de l'Artibonite en Haïti. Trois individus qui feront l'objet d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de voyager au sein de l'Union européenne.
Et sur le front de la criminalité, des incidents ont été signalés ce matin à Pétionville.
Oui, plusieurs corps sans vie retrouvés dans les rues de la commune ce matin au niveau de l'ancien cimetière. Des détonations de gros calibre entendues dans la matinée. Pour l'instant, aucun bilan précis disponible.
Vincent Souriau, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes.
RFI, les voix du monde.
Mais avant, on va parler de ce nouveau mandat d'arrêt contre Evo Morales en Bolivie. Une procureure a émis un mandat contre lui pour traite d'êtres humains à l'égard d'une mineure. L'affaire remonte à 2015. À l'époque, Evo Morales était président et il avait eu une relation avec une fille de 15 ans. Nils Sabin, l'étau judiciaire se resserre autour de l'ex-chef de l'État.
L'ex-président Evo Morales est mis en cause pour avoir eu une relation avec une mineure en 2015, de laquelle serait né un enfant un an plus tard. La justice s'est saisie de l'affaire fin septembre et Morales avait été convoqué pour être interrogé le 10 octobre, une convocation à laquelle il ne s'était pas présenté. Le mandat d'arrêt rendu public hier a en fait été émis il y a deux mois, mais entre-temps, la police n'a pas réussi à appréhender l'ex-président malgré plusieurs tentatives. Celui-ci est retranché dans son fief du Chaparé, entouré de ses soutiens. Il est impossible de l'arrêter sans mettre en danger la vie des forces de l'ordre, des mots de la procureure chargée de l'enquête. Face à la convocation devant la justice de Morales, ses soutiens avaient mis en place des barrages routiers pendant 24 jours au mois d'octobre, une manière de dénoncer ce qu'ils estiment être une persécution judiciaire menée par le gouvernement. Si les marges de manœuvre d'Evo Morales semblent être de plus en plus réduites, il a tout de même réussi, grâce à ses soutiens, à échapper à ce mandat d'arrêt pendant deux mois. Donc la police et la justice vont devoir redoubler d'efforts pour appréhender l'ex-président. Nils Sabin, La Passe, RFI.
Et on vous retrouve, Vincent Souriau, pour la suite de votre revue de presse aux États-Unis où Donald Trump n'en a peut-être pas fini avec ses affaires judiciaires.
Depuis son élection, le ciel s'est éclairci. La magistrature américaine ne sait pas quoi faire de ses procédures. La justice peut-elle s'en prendre à un président en exercice? Quid de l'immunité décrétée par la Cour suprême? Intense débat chez les juristes qui ont provoqué le gel de la majorité des enquêtes.
La majorité, mais pas toutes.
Et non, il reste une tâche sur le CV de Donald Trump, tâche pour laquelle il a bien été condamné, l'affaire Stormy Daniels. L'équipe Trump a falsifié ses comptes pour maquiller le versement d'une somme d'argent à cette ancienne actrice porno. Versement destiné à acheter le silence de cette femme après des relations sexuelles avec le futur occupant de la Maison Blanche. Dans cette affaire, Donald Trump a été reconnu coupable à l'unanimité du jury de 34 infractions, mais ses avocats se démènent pour faire annuler la procédure.
Énorme pression sur les épaules du juge Merchan chargé du dossier.
Oui, mais le juge Merchan vient de statuer. Eh bien, il estime que l'immunité décrétée par la Cour suprême ne permet pas d'écarter les éléments à charge et que les témoignages recueillis par la police auprès d'anciens employés de la Maison Blanche n'empiètent pas sur la séparation des pouvoirs, ce qui signifie qu'à ce stade, la condamnation qui vise Donald Trump tient toujours.
Mais le combat est encore loin d'être fini.
Oui, les avocats de Donald Trump ont encore beaucoup de cordes à leur arc. D'abord, ils peuvent faire appel de cette décision du juge Merchan. Si l'appel ne donne rien, ils pourront toujours se tourner vers la Cour suprême à majorité conservatrice. Pour l'instant, la peine de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels n'a pas encore été fixée. En théorie, le président risque jusqu'à 4 ans de prison. En réalité, si la peine se concrétise un jour, il ne devrait pas écoper d'une condamnation formelle de plus de quelques semaines de détention. Mais dans tous les cas, le président des États-Unis ne peut pas être placé derrière les barreaux pendant la durée de son mandat. Dernière carte dans ces conditions pour la justice américaine, geler le prononcé de la peine jusqu'en 2019, lorsque Donald Trump sera, si l'on peut dire, redevenu un citoyen ordinaire.
RFI, The World's Voices.
On va prendre maintenant la direction du Canada, du Québec plus précisément, où l'approche de Noël rime avec course au sapin. La province francophone est celle qui en produit le plus dans le pays et en exporte, puisque un tiers part vers les États-Unis. Ils sont disponibles un peu partout, mais trouver le bon sapin, c'est une activité à part entière pour de nombreux Québécois. On y va en famille et pas dans une vulgaire boutique ou un magasin de bricolage, non. De plus en plus souvent, les Québécois se rendent directement sur les lieux de plantation, Pascal Guéricola.
Est-ce que les enfants ont le droit d'aller dans le traîneau?
Ouais, en attendant le sapin.
Elliot et sa famille ont rendez-vous ce matin frais de décembre pour aller couper leur sapin non loin de la ville de Québec et le ramener dans une luge.
Donc, vous allez pouvoir partir avec un traîneau et une scie. Ensuite, vous partez à l'aventure dans les champs. On coupe seulement les arbres qui ont des étiquettes dedans. Bonne aventure!
Bon, de quel côté on va, les amis?
Là.
Droite.
Yes! C'est parti. Regardez, les amis. Empreintes. Pensez-vous que c'est un renard, ça? Ça se pourrait, hein?
Il y en a dans le coin.
Des milliers de sapins de différentes variétés et de tailles variables poussent dans plusieurs champs recouverts de neige chez Mon Beau Sapin. Difficile de faire son choix.
Celui-là? Non?
Pas beaucoup de place pour mettre des boules.
OK, pas assez de place pour mettre des boules. Il faut toujours regarder si on est capable de mettre notre étoile correctement. Hein, Léo?
Un peu plus loin dans l'immense champ, ce retraité contemple fièrement un sapin baumier qui le dépasse légèrement, un sapin planté il y a environ une quinzaine d'années.
On a trouvé notre arbre. Il a une belle forme, il est uniforme, il est beau, il est assez grand, il est touffu, il a de l'air en santé. Mais malheureusement, alors, il faut que je le coupe.
OK, un, deux, trois...
Très enthousiaste, cette sexagénaire détaille les raisons qui l'ont amené à venir couper son arbre sur pied.
C'est pour le plaisir de pouvoir le choisir, d'être à l'extérieur, puis une nouvelle tradition qu'on pourra poursuivre avec nos petits-enfants dans les prochaines années.
On remarque que les gens ils prennent vraiment leur journée de congé. Aujourd'hui, on va chercher un sapin. On part en forêt.
Copropriétaire de l'entreprise, Junior Belleville constate un véritable engouement des acheteurs cette année pour venir couper leurs sapins sur place.
Regardez, là, les enfants, ils courent, ils jouent dans les champs. J'espère que ça va durer comme tradition, là.
Ici, on a un sapin baumier premium 6 à 7 pieds. On peut vendre des accessoires là, qui viennent avec, des paquets de branches, des choses comme ça. Donc, on offre pas seulement des sapins. On offre le service d'installer le sapin directement dans le pied.
Retour en ville, avec William dans son camion de livraison. Bien campé dans son costume rouge de soldat de bois de casse-noisette, un spectacle emblématique de Noël, il achemine des sapins au domicile des acheteurs, mais aussi des décorations. Au grand plaisir de cette famille qui l'attend.
Super! Hey, les amours, voulez-vous prendre une photo avec le monsieur? Si vous avez une petite minute. C'est magique. Livré par un casse-noisette comme ça, en plus, c'est pas plus cher que de le prendre à la quincaillerie du coin. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Les enfants, chaque année, ils l'attendent. Là. C'est vraiment cool. Puis le sapin, il est toujours vraiment beau.
Bien, j'aime ça voir les personnes qui arrivent avec le sapin. Puis après, on peut le décorer.
Des dizaines de milliers de sapins ont ainsi été livrés chez des Québécois cette année. Un succès qui incite l'entreprise Beau Sapin à offrir bientôt des franchises dans d'autres pays. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et on va retrouver maintenant nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, aux Antilles, comme dans la quasi-totalité des départements français, la communauté mahoraise vit dans l'angoisse depuis 4 jours.
Écoutez, par exemple, le témoignage de Moinécha. Elle est installée en Guadeloupe depuis 6 mois, entourée par sa belle famille. Elle témoigne de son inquiétude au micro de Marilyn Plaisir.
Vers 1h du matin, j'ai reçu un message de ma sœur me disant qu'ils sont en vie et ils ne sont pas blessés, ce qui m'a soulagée. Mais...
Et depuis?
Depuis, je n'arrive plus à la voir. Là, il n'y a pas de réseau. Je pense qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il n'y a aucun moyen de communication. Tout est Mayotte est saccagé, du coup, les réseaux aussi. On va avoir beaucoup, beaucoup de morts. On espère juste qu'on n'a pas nos propres familles. Malheureusement, on est tous famille à Mayotte. Vous savez que Mayotte est très, très famille. Le cousin, la famille, l'ami, et tout le monde, on est famille. Ma famille s'étend de petites terres au nord et au sud. J'ai beaucoup de familles aussi et on n'arrive pas du tout à les avoir. ni message, ni ce qui est très, très, très terrifiant, horrible pour nous, ne pas savoir. Pour moi, c'est une torture.
Témoignage d'une Mahoraise installée en Guadeloupe. Un tout autre sujet, les trafiquants de drogue qui ne seront décidément jamais à court d'imagination. Dernière trouvaille, entre guillemets, en date de la cocaïne liquide dans du rhum importé, là aussi entre guillemets bien sûr, de Guadeloupe. Christelle Martial.
4 personnes, 3 hommes et une femme âgées entre 23 et 43 ans ont été interpellés dans le Morbihan. Ils sont soupçonnés de trafic de drogue entre la Bretagne et la Guadeloupe. L'affaire commence à plusieurs kilomètres de là, dans l'Essonne. Lors d'un contrôle routier, des douaniers mettent la main sur des cubis de rhum dans lesquels de la cocaïne liquide a été découverte. En tout, ce serait l'équivalent de 10 kilos de drogue qui auraient été saisis, répartis dans une trentaine de cubis. En défilant le fil de cette affaire, les autorités ont pu remonter à un homme domicilié près de Rennes. Après des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur 87 000 euros en avoir, dont des espèces et des objets de marque. Plus tard, de fausses pièces d'identité ont été trouvées, ce qui permet aux enquêteurs de déduire qu'avec ces faux papiers, les trafiquants se rendaient dans différents bureaux de poste pour récupérer les colis de stupéfiants. Vendredi dernier, 4 personnes ont donc été déférées au parquet dans ce dossier. Ils sont tous poursuivis aujourd'hui pour trafic de stupéfiants, falsification et usage de faux documents administratifs et blanchiment d'argent. L'enquête se poursuit.
Voilà, le rhum à consommer avec modération évidemment et la cocaïne à ne pas consommer du tout. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand. Et on va prendre la direction du Brésil pour finir dernière partie de votre revue de presse, Vincent Souriau. Du rififi au pays de la samba.
Ouais, la justice brésilienne suspend la reproduction d'un tube mondial qui s'appelle Million Years Ago, un carton de la pop star britannique Adele, un carton que vous entendez. Adele est poursuivie pour plagiat par un compositeur de samba, c'est le compositeur Toninho Gerais qui a porté plainte. Il estime que ce morceau, sorti en 2015, a copié la mélodie de l'un de ses titres intitulés Mulheres. La décision judiciaire interdit aux filiales brésiliennes de Sony et d'Universal, les maisons de disques de la chanteuse, d'utiliser, de reproduire, d'éditer, de distribuer ou de commercialiser le titre d'Adèle au niveau mondial et sous tout support, sous peine d'amende. Et Toninho Gerais réclame aussi, Anne, des dommages et intérêts.
Et on va écouter sa version à lui, je vous laisse juger.
Ative mulheres de todas as cores, de várias idades. De muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Rendez-vous demain à partir de 11h30, temps universel. Vous restez sur notre antenne, on va continuer à parler musique dans une minute. Changement de style quand même. Chantal Laureau, dans De Vive Voix, reçoit le rappeur Gringe pour son nouvel album Confession d'un hypersensible. Très bonne journée à tous.
Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.